Voici le petit guide de la balado, épisode 2. Bonjour à tous, Boris Proulx au micro.
François Larivière au micro.
On est chez toi encore, François, pour ce deuxième épisode du Petit Guide de la balado. Petit Guide du podcast, hein? On a eu un petit débat cette semaine.
On ne sait pas encore exactement ce que ça va être, mais j'ai un problème avec balado parce qu'on ne sait pas si c'est un ou une balado.
Balado-diffusion, ça reste trop long, trop. Ouais. J'ai entendu même trop Radio-Canadien, selon certains. Quoique, cette fin de semaine, là, on enregistre le lundi de Pâques, donc toute la fin de semaine, j'étais au Festival Transistor. Comme bénévole, et cette question-là de est-ce qu'on dit balado, est-ce qu'on dit podcast, c'est apparu et il semble que la plupart du monde ait migré vers balado-diffusion et ait laissé tomber le terme podcast.
C'est vrai! Parce que j'entendais du monde critiquer le terme balado parce que ça référait au fait d'être
se
en
balader.
Mouvement. C'est ça, exactement. Non, c'est ça, j'ai encore un petit problème avec le terme, mais puisqu'il est accepté, peut-être que ça va devenir, ça va faire partie de notre titre, on sait pas.
Mais j'ai quelque chose à te proposer, on garde le petit guide du podcast comme titre de notre balado-diffusion.
Okay.
Et puis, on se prend des libertés de critiquer ça plus tard dans balado. Qu'est-ce que t'en dis?
Parfait.
Hey, j'ai envie de te parler un peu du festival.
Oui, comment ça s'est passé? Toi, t'étais bénévole, puis t'as participé aussi à la technique. Hein,
exactement. J'étais pas mal à la technique de la plupart des shows pendant le festival. Ça s'est tellement bien passé.
Oui.
C'est le Festival Transistor, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est le festival de la radio numérique de Gatineau. Mais c'est pas mal unique, je pense, au Québec. Là, je connais rien de semblable. Et puis, il y avait toutes sortes de découvertes de balado-diffusion. Au début, je pensais te parler de certains balados. Puis là, le festival est arrivé. Puis je me suis dit, il faut absolument que je te parle de balado que j'ai découvertes pendant le festival.
Mais comment a été ton expérience? Est-ce que tu as aimé travailler pour le festival, justement?
Ah, vraiment. C'était super. C'était vraiment, vraiment super. Pour vrai, quand tu travailles sur un petit festival comme ça, c'était la troisième année seulement. Moi, je me demandais s'il allait venir du monde, concrètement, jusqu'au dernier jour. On dirait qu'on organisait tout ça, puis je me disais, hey, un festival de balado, est-ce qu'il va venir, tu sais, du public? Et finalement, le public était au rendez-vous, pour vrai. Ça a duré 3 jours, puis ça a été 3 jours extrêmement intenses où on a fait pas mal salle comble d'une salle municipale dans le Vieux Hall, là, qui était assez bien faite, je trouve, avec une salle principale, un petit studio. Et on assistait à des moments vraiment émotifs, je pense. Puis j'aimerais ça t'en parler de un de ces deux. Premièrement, c'est juste une petite parenthèse, là. Il y a eu le balado synthèse. C'est un balado de crime fait ici en Outaouais par Transistor sur le meurtre de Valérie Leblanc. On s'en est beaucoup parlé au bureau, là. Il faudrait faire un épisode en fait au complet là-dessus parce que ils ont annoncé qu'il y aurait une saison 2 notamment au festival, donc ça se met à être officiel. Il y a toutes sortes d'affaires que j'ai envie de te dire, mais qu'on
mais évidemment pas sur, parce que synthèse, la première saison était sur le cas Valérie Leblanc. Évidemment, la deuxième saison sera sur un autre cas.
Exact. Et puis, ils ont présenté le 6e épisode de la première saison sur Valérie Leblanc devant public, et il y avait plein de gens de Gatineau, évidemment, et des gens qui étaient personnellement touchés par cette histoire-là. Donc, il y a eu un moment très intense sur scène avec Julien Morissette, le réalisateur, et Steven Boivin, et le public qui était très curieux, qui posait des questions. Il y a eu un moment vraiment, là, c'était palpable, je trouve, dans la foule. Il y avait de la tension,
des gens qui ont
d'énergie.
Des gens qui ont vécu le cas personnellement, est-ce que c'est des gens qui ont vécu ça de près?
Ben, il y avait des profs de cégep là-dedans, il y avait des gens qui l'ont vécu, tu sais, qui s'en rappellent ce jour-là, tu comprends, là, qui gravitaient autour soit du cégep ou soit qui étaient étudiants à l'époque ou qui en ont entendu parler aux nouvelles ou qui connaissaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un. C'est quand même pas une très grande ville, Gatineau, là. Et puis voilà, c'était un beau moment du festival. Et dans la même petite salle, il y a eu aussi le dévoilement de ce premier podcast dont je voulais te parler, ouais. qui est la balado d'Annie Desrochers. C'est l'animatrice du 15-18 okay. à Montréal ouais. Qui a fait un balado qui n'est pas encore publié, en fait, qui s'appelle Transmission. Donc, je n'ai pas d'extrait. Mmh. Je te parle d'un balado qui va plutôt être publié fin du mois d'avril, je crois. On peut commencer à s'abonner, mais ça va être publié plus tard les épisodes. Elle a fait ça avec le réalisateur Cédric Chabuel, que tu connais, je pense.
Très bien, oui.
Moi, je
travaillé avec lui.
Ah oui, ok, ouais. T'as eu la chance de travailler avec lui parce que moi, je l'ai vu pendant la présentation. Tu pourrais me parler de lui dans quelques minutes, si tu veux,
oui,
parce
super. Que
je trouve qu'il avait de l'air pro en tabarouette. Ça s'appelle donc Transmission et je peux te lire peut-être juste un petit peu la description qu'il y avait sur le festival. En 1970, le premier ministre Robert Bourassa a donné le mandat de donner à son conseiller Paul Desrochers de faire naître le projet hydroélectrique de la baie James. Plus de 40 ans plus tard, sa petite fille, Annie Desrochers, tente de voir si ces aménagements ont été bons pour le Québec. Elle part sur la route de Radisson avec ses fils pour un voyage où l'histoire du Québec s'entremêle avec l'histoire familiale. Annie Desrochers et Cédric Chabuel présentent en exclusivité ce balado documentaire en cours de production à Radio-Canada. Donc c'était ça l'offre. Et là, elle a mis des extraits qui étaient savoureux, où elle va là-bas, comme je viens de dire, avec ses enfants, ses trois fils, je crois, et ils font à chaque jour un petit briefing sur ce qu'ils ont retenu de la journée. Donc, Radisson, c'est hyper loin dans le nord. Ce projet-là est absolument grandiose et intrinsèquement lié avec l'histoire du Québec, de la Révolution tranquille. Donc, ils prennent, on dirait qu'ils découvrent l'ampleur du projet, de ce que ça représentait pour le Québec à l'époque. Son grand-père était dans le projet. Elle n'a pas vraiment eu de lien avec lui, si j'ai bien compris. Donc, c'est ça, transmission, tu sais, ça s'est mal fait ou je sais pas quoi. Donc là, il y a transmission avec ses enfants. Il y a comme un jeu de mots là-dedans avec transmission électrique, évidemment, puisqu'on reçoit l'électricité de ces barrages-là. Donc c'est ça, elle nous raconte tout. On entend son enregistrement de ce qu'elle a fait là-bas avec ses fils et une écriture, là, vraiment une narration qu'elle a fait à Radio-Canada, si on veut, dans le scénario. Donc il y a des niveaux de narration dans ce balado-là. Et c'est ce que j'ai retenu en fait d'une balado pro, c'est les niveaux de narration. C'est, ouais. c'est le fun d'expliquer quelque chose en narration, puis après ça, d'avoir des extraits de quand t'étais sur le terrain. Ça m'a vraiment inspiré, en fait. Et encore une fois, il y avait quelqu'un qui venait de Radisson, un gars qui avait grandi là, tu sais, qui était dans la foule, puis qui est même, c'est redevenu émotif parce qu'on connaît tellement pas ça. Puis il y a eu ce contact-là, je pense, avec le public qui était franchement unique. Puis ce podcast-là, franchement, je sais pas quand il sera diffusé, malheureusement. C'est plate, j'aurais dû prendre ça en note pour le dire pendant le podcast.
Je crois que c'est cet automne, en fait. Ce que j'ai compris, c'est que c'est cet automne qu'il était pour diffuser la totale. Mais moi, j'ai eu la chance de travailler avec Cédric Chabuel sur le balado Théo Youssef.
Oui, t'as travaillé là-dessus?
Oui, lui a fait absolument toute la conception sonore, l'habillage, puis tout. Puis moi, ensuite, j'ai mixé une partie des épisodes. Puis j'ai été étonné du professionnalisme puis de la créativité de cet homme.
Ça ressemble vraiment à quoi, la création sonore? Parce que j'entendais pour Transmission, par exemple, il prenait des bruits électriques, là, comme tu peux t'imaginer, un univers musical, tout ça.
Mais je connais pas exactement la façon qu'il a travaillé. Là. Je peux pas dire s'il a pris une banque de son ou il est allé sur le terrain faire de la prise de son en tant que tel. Sauf que, tu sais, il y avait un travail de réalisation aussi. Là. Il y avait un concept avec, tu sais, mettons, il parlait de cordes sensibles. Dans un épisode, il parle de cordes raides, tu sais, qui étaient sur une corde raide, tu sais, puis t'entends les bruits de cordes de bateau, tu sais, il y a une pensée, il y a une logique dans sa conception sonore qui est bien à lui, puis non, c'est un très, très bon concepteur sonore. Vraiment bon.
Vraiment intéressant. Ouais. Il y avait quelqu'un d'autre sur le panel, Martin Girard, que tu connais peut-être de Première Plus. C'est un boss à Radio-Canada, puis c'est drôle parce qu'il y avait des questions dans le public qui étaient... « Ah, mais il y a ces projets-là de balado à Radio-Canada et j'en ai jamais entendu parler. Comment ça se fait? » Donc, il y a toute la question de la découvrabilité des balados qui a énormément été questionnée dans ce genre de panel-là qu'il y a eu pendant le festival. Et ben voilà, c'est ça. Je voulais en parler, puis on surveille ça, en tout cas, Transmission. Ça va être un balado de Première Plus qui va apparaître un moment donné, puis je pense que la machine va être pour la promotion.
On a très, très hâte.
Voilà.
Moi, je voulais vous parler aujourd'hui de la balado qui s'appelle, ou le balado, bref, le podcast qui s'appelle Startup. J'ai un lien particulier avec ce podcast-là parce que c'est le premier. C'est le tout premier podcast que j'ai écouté.
Ah oui?
C'est lui qui m'a donné la piqûre pour la balado, rien de moins.
Est-ce que c'est vieux?
Je te dirais que c'est assez vieux, mais je ne pourrais pas te donner l'année en tant que telle.
Je suis curieux, comment t'es tombé là-dessus? C'est-tu un ami qui te disait, écoute ça?
C'est un de mes anciens patrons qui m'a fait découvrir cette balado-là pour me donner une idée des projets qui étaient pour s'en venir dans cette boîte-là. Depuis Startup, Boris, j'essaie un peu, comme un junkie, de retrouver l'effet que m'a donné Startup à travers les autres podcasts. Bon, peut-être que je m'emporte un peu, là, mais c'était comme Boris, puis que t'as jamais encore écouté ça, là, tu peux pas te tromper. Je vous mets en contexte. Alex Blomberg, qui était pour un bon moment journaliste et producteur pour le podcast This American Life, et aussi le co-créateur du podcast Planet Money, qui est probablement aussi connu.
Oui, sur l'économie.
Sur l'économie, très, très bon podcast, je le suggère. Décide, lui, qu'il est temps de mettre ses connaissances à profit et de se partir en affaires. Il veut se starter une boîte de podcast, OK?
Puis,
D'où le balado Startup. Il réalise au début, quand son entreprise est juste encore un rêve, là, que partir une compagnie, c'est une maudite bonne histoire, puis que lui, les histoires, il sait comment les raconter. Fait qu'il va décider de s'enregistrer tout au long du processus, tout au long de son cheminement, y compris les discussions avec sa femme au sujet de ses craintes, ses ambitions, de sa vision, de la compagnie, tout ça, y compris les chicanes avec ses partners. Donc, t'as absolument tout, là.
Mais le balado, c'est ça, c'est intime, hein?
C'est ça, puis c'est ça qui marche, tu sais. Fait que le succès du podcast, comme on dit, c'est vraiment l'honnêteté avec laquelle le projet est réalisé. Puis surtout, l'accès que nous donne ce podcast-là sur le monde de la business. Moi, je pense que c'est vraiment ça l'aspect important. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, Alex Blomberg, lui, il sait comment raconter des histoires, puis il traîne son micro absolument n'importe où. Par exemple, dans le premier épisode, on est avec lui alors qu'il tente de pitcher son concept de boîte de podcast à un investisseur potentiel. Okay? Le titre de l'épisode, puis là, je vous le traduis, « Comment ne pas pitcher à un milliardaire? » Ça te donne une idée.
C'est des bons titres.
Mais c'est très, très bon. Il veut essayer de convaincre Chris Sacca de lui donner du gros cash parce que ça en prend beaucoup. Puis ceux qui ne connaissent pas M. Sacca, c'est un investisseur professionnel qui a du succès. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le gars a investi dans Twitter quand c'était encore rien pantoute. Le gars a investi dans Instagram et dans Uber avant que c'était quelque chose, avant que les compagnies soient populaires.
Fait que là, ils se sont dit, je suis the next big thing, donnez-moi de l'argent.
Donnez-moi de l'argent. Mais on peut comprendre que ce gars-là, les coffres sont pleins. Là, fait qu'il a du succès, puis il s'en va pitcher à un gourou de l'économie. OK? Fait qu'on entend Alex Blomberg faire un pitch à Chris Sacca, puis c'est vraiment malaisant. Comme il l'a pas.
Ça marche pas, là.
Du tout. C'est hallucinant, ça marche pas, là.
Il y a pas l'argent.
Il y a. Ben, je vous compterai pas, là.
Ah, OK,
Mais la première fois qu'il pitch, je te dis, ça fonctionne pas pantoute. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est bon, ce podcast-là aussi, parce que t'as vraiment la vérité froide de la business, tu sais. Mm-hmm. Puis on l'entend même en narration rire de lui, tu sais. Il se ménage pas. On peut même en écouter un extrait, si vous voulez.
I want to start a company that will create the content for all these people to listen to who are, like, moving into the digital future slash present.
Digital future slash present? Who says that? If I'm honest, I sound like a douchebag. Dropping all this jargon, instead of saying listening to the radio, saying consuming audio. Also, notice how the more nervous I become, the higher my voice gets.
So you're uniquely positioned to do it because you're better at it than anybody?
Yeah.
Il se fait demander par le millionnaire, donc tout ce que tu fais, c'est de me dire que t'es meilleur, je devrais donner de l'argent parce que t'es meilleur que tout le monde. Puis là, il réfléchit, il dit oui.
Oui. Puis,
avec sa petite voix.
C'est ça qui est encore plus malaisant parce que justement, la rencontre se fait pas dans un bureau, tu sais, avec un café puis une bouteille
d'eau.
Ils sont
dehors.
Ils marchent pour aller à une prochaine rencontre puis il l'accroche puis il fait un pitch, tu sais.
Ok, classique.
Puis j'ai oublié de vous dire quelque chose, par exemple. La première saison de Startup nous dévoile carrément les tout débuts de la business Gimlet. qu'on connaît bien aujourd'hui. D'ailleurs, dans le premier épisode qu'on a fait de la saison, qu'on a fait moi et toi, on a parlé...
On a écouté un podcast de Gimlet.
Oui, exactement.
C'est devenu une entreprise incontournable aux États-Unis de podcast, justement, qui a été vendue à Spotify. Je sais pas si t'allais en arriver là.
Non, mais en fait, ce que je te pourrais dire, c'est qu'on entend dans Startup, dans un des premiers épisodes de Startup, on entend Alex Bloomberg discuter d'un nouveau show qui veut partir avec deux gars, PJ Vogue et Alex Goldman. Ça, c'est les gars de Reply All. On entend les dessous. On attend juste avant que ça devienne quelque chose, Reply All.
Et
c'est
du côté
vraiment...
business, pas du côté...
du côté business.
Éditorial ou des idées, quoi que ce soit.
Exactement.
Ils sont comme, il faut trouver de l'argent pour monter ce show-là.
C'est ça.
Ce qui devient Reply All. Le on en a parlé dans notre premier épisode, épisode pilote, comme quoi c'est une espèce de succès incontournable. Puis Gimlet a... énormément bénéficié de ça, là. Je pense que
exactement.
C'est un des podcasts forts de Gimlet maintenant.
C'est ça, exactement. Puis on connaît aussi Gimlet pour d'autres balados, là, comme Homecoming, peut-être Conviction plus récemment, je ne sais pas si vous le connaissez celle-là.
Non.
Mais si on retourne à Startup, bon, le balado, il ne parle pas de Gimlet pendant cette saison, là. Il aurait probablement manqué de jus à ce moment-là. Mais dès la deuxième saison, ils font découvrir une panoplie de petites entreprises qui, eux, essaient de tirer leur épingle du jeu aussi, là. Donc on entend d'autres entreprises essayer de percer. T'sais, ils reprennent le concept. Puis ils s'en vont l'appliquer à d'autres entreprises. Uh-huh. Fait que c'est très, très efficace. C'est super intéressant, encore une fois. Quasiment toutes les critiques que j'ai consultées au sujet de cette série, Startup, ils disent que c'est un podcast pour les entrepreneurs.
Okay.
C'est un must si tu es un entrepreneur.
Donc, personnellement, c'est pas nécessairement pour des fans de podcasts comme toi et moi.
Mais sais-tu quoi? Moi, je suis en désaccord complètement avec ça. Moi, je pense que c'est un maudit beau bon podcast, que tu sois entrepreneur ou pas. Là, mm-hmm. Fait que, puis je vais encore focusser sur la saison 1. Là. Si tu as une saison à écouter de Startup, c'est la saison 1.
Ouais.
Parce que oui, ça marche pour les conseils de gestionnaire. Ça marche pour les trucs à pitcher à un investisseur. Oui, OK, tu vas avoir des conseils là-dessus. Mais c'est surtout l'honnêteté du show, puis la façon que c'est réalisé, c'est vraiment une perle. Donc, je vous le rappelle, encore une fois, le nom, c'est Startup de la compagnie Gimlet. Voilà, Boris.
Je vous explique comment ça fonctionne. C'est un podcast improvisé. On improvise pendant une heure, basé sur des suggestions que vous nous envoyez à chaque semaine sur notre page Facebook. Des sketchs en jogging, vous pouvez nous suivre. Notre podcast est disponible sur toute bonne plateforme. Donc, on pose des questions, on improvise pendant une heure. Je vous rappelle aussi qu'à la fin du podcast, on a toujours un moment qu'on revoit un personnage qu'on a aimé, une improvisation qu'on a aimé. Fait que je vais vous demander d'être alerte puis essayer de vous rappeler des personnages ou des improvisations.
Donc voilà, c'est un petit extrait de sketch en jogging.
Qu'est-ce que c'est que ça?
En fait, j'ai gardé cet extrait-là où il explique son concept au début du show parce que c'est un concept qui, je pense, vaut le détour. Là, on est vraiment ailleurs. Hein? Depuis tantôt qu'on parle quasiment des quêtes personnelles avec Transmission et avec Startup, où ce sont vraiment des séries. Là, au contraire, c'est un podcast qui est plutôt format table ronde, discussion hebdomadaire. Ou je sais pas si, je pense pas que ce soit à chaque semaine, mais enfin, c'est une gang d'impro, tu sais, des improvisateurs qui se mettent ensemble. C'est pas toujours les mêmes, quoique ça tourne toujours autour de Phil Brown, qui est l'animateur principal et qui a sa petite clochette et qui dit comme ça les règles du jeu et qui lance toujours le bal. Et ces improvisateurs-là reçoivent, comme il l'explique dans ce petit clip, ils reçoivent des questions sur leur page Facebook et ils jasent de ça, et là, un moment donné, cet improvisateur-là, Phil Brown, il arrête tout ça et il part une impro. Il met un petit setup. Telle affaire, je sais pas moi, nous sommes en telle année, et puis je cogne, toc toc toc, que faites-vous, madame la marquise? Là, je dis ça de n'importe quoi, je suis vraiment pas en improvisation. Mais et là, les gens autour de la table deviennent des personnages comme dans une impro.
Je comprends.
Et ils déconnent complètement jusqu'à temps que souvent il y a une espèce de build-up, puis là il y a sa petite clochette, ding ding ding, ça sonne la fin de l'impro. Et,
en continuant de parler du sujet du début, là.
En continuant, en fait, de parler en s'inspirant du sujet du début qui est, ou de leur discussion, mais s'inspirer très librement. Là. Souvent, c'est comme juste on va on va improviser sur quelque chose que quelqu'un a dit, et puis ça peut être n'importe quel prétexte, et souvent c'est une autre façon de rire ces questions-là, puis après ça, hop, on pogne un élément là-dedans, puis on part une impro. Et
est-ce que ça marche?
Moi, je trouve que ça marche très bien. Je l'ai vu devant public au Festival Transistor. Mmh. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire ça, mais c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce balado. Ça a peut-être été ma découverte du festival, parce que c'est des locaux, on peut dire, c'est des gens de Gatineau qui font ça. C'est un podcast local. C'est le fun, les podcasts locaux, je trouve. Aussi bien en parler... bon, j'ai commencé en parlant de gros podcasts d'ici première ou des gros podcasts américains, mais des fois, il y a de la bonne créativité juste... dans des concepts qui viennent d'ici. Ouais. Moi, le show que j'ai vu, c'était devant public au Festival Transistor. Et c'était les improvisateurs, comme je disais, Phil Brown, l'animateur, mais il y avait Patrick Guillotte, Miguel Martin et Ariane McNichol, qui sont des gens de théâtre de l'Outaouais et qui ont vraiment lâché leur fou devant public. Et j'ai adoré ça. Ça a vraiment levé. Les gens ont ri. Écoute, je pense que j'ai ri aux larmes, là. Et à la fin de leur segment, ça, c'est drôle parce qu'ils vont reprendre un personnage qui était particulièrement drôle ou deux personnages, puis ils vont les faire jouer ensemble d'une impro. Okay. Juste de même, ça finit le podcast. Et ce que j'ai trouvé magnifique, c'est c'était que c'était devant public. Après, aujourd'hui, j'ai réécouté d'autres épisodes qu'ils ont fait. J'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça le fun, mais franchement, il n'y avait rien de tel que devant public. Ouais. Je trouve que c'est un podcast qui mériterait quasiment d'être joué dans un bar ou devant public. L'épisode qui a été enregistré pendant le Festival Transistor n'est pas encore en ligne. Je ne sais pas s'il va l'être bientôt, à vrai dire, mais j'ai très hâte de voir la différence parce que d'après moi, ça rajoute un petit quelque chose.
Ça donne l'énergie aux gens aussi, hein, aux improvisateurs. Quand il y a des gens qui réagissent au gag, souvent ça leur donne l'énergie pour aller plus loin dans le gag aussi. Là,
ben, complètement. Puis je ne sais pas si tu écoutes le podcast de Mike Ward sous-écoute, mais le fait qu'il soit devant public, c'est selon moi incontournable. Oui. Parce que c'est un gars de foule, il interagit avec ça. Et je pense que l'impro est un médium qui peut, et là je l'ai découvert, s'adapter en balado, mais devant public, je pense vraiment qu'en tout cas, s'il y avait une suggestion à faire à la gang de sketch en jogging, ça serait de le faire devant dans un bar, de faire une espèce d'hebdomadaire là, puis d'enregistrer ça. En tout cas,
mais ça, c'est un nouveau balado ou...
Ils ont fait une saison complète déjà et là, ils sont au début de leur deuxième saison maintenant en 2019, je crois.
Puis rappelle-moi, c'est quoi le titre?
Ça s'appelle Sketch en jogging avec Philip Brown et celui que j'ai vu en personne avec Patrick Guillotte, Miguel Martin et Ariane McNichol, mais je pense que les co-animateurs sont là. Une fois de temps en temps, ça change ça. Et donc, voilà qui conclut notre deuxième épisode.
Deuxième déjà.
Du petit guide du podcast.
On s'était dit qu'on était pour partir à une page Facebook. On ne l'a pas encore fait.
Non. On met ça en ligne maintenant. Ouais. François, qu'est-ce que t'en dis?
Oui, on le fait.
On part ça. On va essayer de se faire un petit guide pour conseiller le public. Hein? conseiller les gens sur le monde, l'univers de la balado québécois.
Puis on rappelle aux gens qu'on n'est pas des experts, on est juste des gars qui sont passionnés par la balado, qui veulent en parler, qui veulent suggérer aux autres ceux qui ont écouté puis qui ont trouvé extraordinaire. Donc voilà.
Ouais, je vous remercie à tous d'être à l'écoute et je te remercie François.
Merci beaucoup, Alex.
Hein, à la semaine prochaine.
Salut.